Merci beaucoup d'écouter l'Alpha 10-13 sur Radio Alpha. Je suis maintenant avec le journaliste et auteur José Rodríguez dos Santos. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous parler de votre dernier roman. Il s'appelle Protocole Chaos. C'est publié aux éditions Hervé Chopin. C'est un roman riche sur la désinformation, sur l'influence pernicieuse des réseaux sociaux, sur les fake news, leur puissance, leur danger, leur pouvoir de séduction aussi. C'est un roman qui, comme souvent chez vous, sous couvert de fiction, nous décrit en fait une réalité brutale, l'influence de la Russie de Poutine sur l'Amérique de Donald Trump, un roman dense qui se lit très vite malgré ses plus de 600 pages, qui nous plonge donc au cœur du projet russe pour l'Occident. D'entrée de jeu, dans ce roman, José, vous êtes incisif sur l'État russe. Vous écrivez par exemple à propos du FSB, le service de renseignement de la Russie, que, je cite, « Le FSB n'est rien d'autre que le KGB sous un autre nom, et pour les membres du KGB, mentir compulsivement est une seconde nature comme on devrait tous le savoir. Il en a toujours été ainsi, et ça le restera. » L'État russe est-il, José, par essence un État manipulateur ?
Oui, je dirais plus, c'est un État mafia, d'un certain sens. Alors, ils ont un projet et je pense que le plus important du livre, c'est comprendre les enjeux aujourd'hui dans la géopolitique. Qu'est-ce que la Russie veut ? Quand les Russes ont attaqué l'Ukraine en 2022, beaucoup du monde a dit, mais il faut que Poutine meure. Et s'il sera mort, tout sera résolu. Malheureusement, ça se passera pas ainsi, car le problème, c'est que c'est pas seulement Poutine, c'est toute une idéologie qui existe aujourd'hui en Russie. C'est un pays qui n'accepte pas la chute de son empire. Par exemple, les Portugais, nous avons, eux, un empire, mais retourner à l'empire, bon, c'est dans le passé, on n'imagine pas. Mais les Russes, ils imaginent ça. En plus, ils disent qu'il faut élargir leur empire. La Russie n'est pas un pays, est un empire. Il y a plusieurs peuples là-dedans, et les Russes sont les dominants. Et ce sont ces idées qui sont derrière le grand projet de la Russie pour s'élargir et, évidemment, dominer l'Europe.
Toujours au début de votre roman, vous décrivez l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, vous venez d'en parler, vous évoquez notamment la série d'attentats qui eurent lieu en 1999 contre des immeubles d'habitation dans plusieurs villes de l'ouest de la Russie, ces attaques qui justifièrent le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie. Vous écrivez ceci, je vous cite, « Vladimir Poutine, 17 années s'étaient écoulées depuis que les attentats contre les bâtiments de plusieurs villes prétendument perpétrés par des Tchétchènes avaient conduit à la deuxième invasion de la Tchétchénie et fait monter en flèche la population. » Popularité du premier ministre de l'époque, à tel point que lorsqu'il arriva le moment de remplacer Eltsine à la présidence, c'est Poutine qui fut choisi. La Russie avait changé sous le commandement du nouveau maître du Kremlin et le monde aussi. La coopération avec l'Occident s'était à nouveau transformée en confrontation en raison des opérations militaires occidentales dans les Balkans et en Irak, des opérations militaires russes en Géorgie et surtout en Ukraine avec l'invasion de la Crimée et du Donbass. Avec tout cela, Vladimir Poutine avait renforcé son pouvoir. Il l'avait fait en plaçant des membres du FSB à la tête du pays, transformant ainsi l'État russe en un État du FSB, ou pour être plus précis, en un État des anciens membres du KGB. José Rodríguez dos Santos, l'État russe a-t-il donc provoqué ces attentats et accusé à tort les Tchétchènes pour partir en guerre ?
Oui, alors ce que j'explique dans le roman, c'est que ces attentats qui ont tué des centaines de personnes, on a découvert que c'était l'État russe qui était derrière ces attentats. Et ils ont créé une commission d'enquête au Parlement russe sur le sujet et beaucoup de membres de cette commission ont mystérieusement décédé. Et alors, ils ont arrêté d'enquêter car ils comprenaient que des maladies viendraient pour les tuer à tous et alors ils ont arrêté. Mais je pense que pour comprendre ce qui se passe, il nous faut comprendre les idées d'Alexander Dugin. Alexander Dugin, c'est le Rasputin de Poutine. Voilà, Rasputin, ça fait bien. Et Alexander Dugin, c'est un homme qui a créé en 1993 un parti qui s'appelait le Parti National Bolchevique. Et j'invite les auditeurs de googler le nom Parti National Bolchevique. Et quand on fait ça, on voit le drapeau du parti, et le drapeau, c'est un mélange entre le drapeau communiste et le drapeau nazi. Et c'est vraiment le projet. Dugin a écrit en 1997 un livre qui s'appelle « Fondation de la géopolitique », où il explique le projet, c'est le projet qu'à cet instant, la Russie est en train de réaliser. Alors, il dit là que la Russie n'est pas un pays, c'est un empire, et comme tous les empires, il faut élargir les frontières. Comment le faire? Bon, ça sera fait en dépit de l'Europe. Alors, il faut encourager le nationalisme russe et il faut couper la liaison entre l'Europe et les États-Unis. Mmh. Et cette liaison s'appelle OTAN. Alors, il faut détruire l'OTAN. Comment le faire? Parce que c'est l'OTAN qui fait la protection de l'Europe, évidemment. Comment le faire? Bon, il faut encourager des mouvements isolationnistes aux États-Unis, notamment au Parti républicain, il dit explicitement, et en encourageant les divisions, la polarisation de la société, tout ça. Et puis, après qu'on fait ça, l'Europe, elle sera seule. Et évidemment, si elle seule, bon, on peut la prendre. Et c'est le projet. Ce livre-là, il est un texte, lecture obligatoire à l'Académie de l'état-major de l'armée russe aujourd'hui. C'est la base de la pensée géostratégique russe. Et voilà qu'ils ont trouvé Trump comme un moyen, un utile pour arriver. Qu'est-ce que Trump fait finalement? Ce qu'il fait, c'est justement de affaiblir l'OTAN. Même s'il n'a pas le pouvoir de terminer avec l'OTAN, le fait qu'il ne donne pas la garantie que si la Russie attaque l'Europe, l'Amérique viendra, alors ça, c'est un encouragement à la Russie à attaquer, parce qu'il dit qu'effectivement l'OTAN n'existe plus. Finalement, il faut souligner que dans son livre, Dugin, ses idées sont suivies par Poutine, mmh. Dugin, il a dit... La Russie, c'est Rome, l'empire continental. Et l'Occident, c'est Carthage. Et puis, il conclut, Rome doit détruire Carthage, voire la Russie doit détruire l'Occident. Et créer une Russie qui va de Vladivostok à Dublin.
Oui, ça, c'est sa théorie de l'empire eurasien.
Exactement.
De Lisbonne à Vladivostok.
De Lisbonne, il y a plusieurs versions. De Vladivostok à Dublin, Vladivostok à Lisbonne et Vladivostok à Brest. Et alors, c'est ça les enjeux que nous avons aujourd'hui.
Vous parliez de Donald Trump, vous avez cette phrase sur Donald Trump dans votre ouvrage, je vous cite, la phrase qui galvanisait le plus l'électorat américain était « construisez le mur » et Trump ne l'a pas inventé, c'est nous, les Russes, qui l'avons inventé. Les Américains ont extraordinairement bien réagi à cette phrase et les algorithmes ont enregistré cette réaction. Les autres phrases gagnantes ont été « nettoyez le marais et rendons sa grandeur à l'Amérique », c'est pour ça que Trump passe sa vie à les répéter, ce n'est qu'un acteur, les algorithmes déterminent les phrases qui fonctionnent le mieux, nous, les Russes, nous détectons ces phrases. Et il les répète comme un perroquet. Trump n'est-il que le perroquet des Russes, donc?
Oui, il est vraiment un instrument de Russes. Alors, on peut parler sur Trump parce que ses liaisons avec les Russes sont très claires. Par exemple, le magazine New Yorker a fait une étude et a découvert que entre 2003 et 2007, plus de 5 millions de dollars de business de Trump est venu de l'argent des gens de l'ancienne Union soviétique. Mmh. Dans ses rencontres avec Poutine, Trump, il ne veut pas un traducteur américain. Parce que, alors, c'est absolument inouï, bizarre, parce qu'il a besoin de son traducteur, parce que il faut que les États-Unis, le gouvernement, le vice-président, tout ça, comprend ce qui se passe dans ces conversations. Il ne veut pas. Alors, il veut cacher quelque chose qu'il parle avec Poutine. Et en effet, on le voit très clairement, Trump, il insulte tout le monde. Au Canada, en Europe, n'importe qui, il dit des choses incroyables. Toutefois, envers Poutine, il est toujours obséquieux. Et on croit que les Russes ont des informations compromettantes. En russe, on dit que c'est du compromat. Mm-hmm. Les Russes ont du compromat d'une certaine nature, on ne sait pas, et Trump a peur de ça. Et ça, c'est pas seulement une spéculation. Bon, c'est une spéculation, évidemment, parce qu'on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que c'est compromat. Mais les anciens directeurs de CIA le disent ouvertement. Notamment l'ancien directeur de CIA John Brennan, l'ancien directeur de CIA Michael Hayden, l'ancien directeur de CIA Bill Burns, l'ancien directeur adjoint de CIA, Michael Morell, qui a dit que Trump est un agent involontaire, recruté par Poutine lui-même. Et quand on voit des gens comme ça, de la CIA, dire ouvertement ce genre de choses, on peut imaginer ce qu'ils savent vraiment. Même l'ancien directeur de FBI, James Comey, a dit la même chose, que c'est possible qu'il y a des compromates de la Russie envers Trump, et Trump ne fait que ce que la Russie demande de faire.
Oui, et tout cela dans le but de déstabiliser l'Occident, puisque faire tomber l'Amérique, c'est faire tomber l'Europe,
exactement,
et donc permettre à la Russie d'envahir, entre guillemets, plus rapidement l'Europe.
Absolument, alors c'est ce que je dis toujours, le vrai projet de Donald Trump, c'est pas « Make America Great Again », mais plutôt « Make Russia Great Again ». Alors, c'est pas faire la grandeur des États-Unis, c'est faire la grandeur de la Russie. Et en effet, c'est ce qu'on voit tous les jours, ces décisions. Quelquefois, ils menacent d'une façon très, très souple des sanctions, mais ça n'aboutit jamais à rien. Ce ne sont que des paroles, et finalement, il fait un coup de téléphone. « Ah, j'ai parlé avec mon ami Poutine, et finalement, il a un bon cœur, alors on va essayer encore une autre fois. » Et évidemment, il ne fait que le jeu de Poutine.
Effectivement, puisque les Russies donc essayent de faire tomber l'Amérique, puisque pour eux, l'Europe ne représente pas grand-chose. D'ailleurs, à la page 186 de votre roman, le Protocole Chaos, je le répète ici, aux éditions Hervé Chopin, vous mettez dans la bouche d'un Russe la vision que la Russie aurait de l'Europe, du monde occidental, mais de l'Europe tout particulièrement. Je vous cite, ce Russe, dans votre livre, dit ceci, « Les Européens ne sont qu'une bande de PD en bourgeoisie et décadents. Ces nantis ne s'intéressent qu'aux vacances, au salaire minimum, aux pensions de retraite, aux restaurants, aux homosexuels, aux politiquement corrects, aux minorités, aux droits des musulmans, à la sécurité sociale, à toutes ces conneries bourgeoises qui les affaiblissent. Ils implorent les Européens sans cesse la paix et refusent de dépenser un seul centime pour l'armement. Ils ont même réduit leurs armées à une poignée d'hommes mal équipés. Ce ne sont que des faibles et des naïfs. Sans la protection des États-Unis, ils ne seront rien. Si les Américains cessent de les protéger, ces petits PD d'Européens prendront leurs jambes à leur cou quand ils nous verront avancer avec nos braves soldats, nos chars puissants, nos avions dernier cri et nos missiles hypersoniques. Je dis simplement que si nous parvenons à diviser l'OTAN et à éliminer les Américains de l'équation, les Européens tomberont entre nos mains comme un fruit mûr.
Oui, c'est leur projet. Et en effet, c'est très intéressant. Il y a quelques semaines, la Russie a nommé un nouveau commandant des forces de terre de l'armée russe. Mm-hmm. Et lui, on a récupéré un entretien qu'il a donné il y a 2 ans, où il a dit à un intervieweur russe que la guerre en Ukraine n'était que la phase initiale. Et c'est le commandant aujourd'hui des forces russes qu'il a dit très clairement. La guerre en Ukraine, ce n'est qu'une attaque, une phase initiale d'une guerre plus longue. C'est très intéressant. Il y a 2 ans, j'étais à... 2 ans ou l'année dernière? Non, l'année dernière. J'étais à Sofia, en Bulgarie, pour la fête du livre. Et il y avait une rencontre très importante de l'OTAN dans la même ville. Alors, j'ai connu à l'hôtel des officiers de l'OTAN. Et j'ai parlé avec des bières, on buvait des bières, avec des officiers britanniques et américains. Et ils m'ont dit, avez-vous remarqué comment en France Macron a changé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais au début, il disait, il faut pas humilier la Russie, tout ça. Et maintenant, il est devenu vraiment agressif envers la Russie. C'est parce qu'il a eu des informations secrètes sur les vrais projets de la Russie. Il a compris vraiment le jeu de la Russie. Et c'est le grand défi que nous avons.
Oui, donc le grand jeu de la Russie, en fait, c'est de commencer par l'Ukraine pour aller jusqu'à Lisbonne, en fait.
Exactement.
C'est cet empire eurasien défendu par Alexandre Dugin.
Oui, c'est pourquoi Macron, il a dit, ne pensez pas que l'impensable n'est pas possible, car il est. C'est parce qu'il a eu ces informations. Et il nous faut le comprendre. Nous sommes désarmés. Imaginons-nous qu'il y a un mec, c'est la Russie, qu'il s'appelle Russie, c'est un homme qui est très pauvre, mais il est fortement armé. Il y a un autre mec qui est très riche, mais il n'a pas d'armes. Que pensez-vous qui va se passer? Alors c'est ça ce qui s'est dans la tête des Russes. Ils le disent très clairement, souvent, pas seulement dans le texte de Dugin, mais d'autres textes où il explique qu'il faut prendre l'Europe. Et il nous faut nous préparer pour cette situation. Alors, comment ils ont fait? Alors, ils ont utilisé Trump comme un moyen de en finir avec l'OTAN, avec la protection américaine de l'Europe, premier pas. Mais ils ont utilisé aussi un second outil, c'était les réseaux sociaux.
Voilà,
c'est très important de parler de ça.
Oui, parce que Vladimir Poutine, en fait, a inventé une nouvelle façon de faire la guerre. Il surfe sur la naïveté des gens, il inonde la toile de fake news et il manipule ainsi le plus grand nombre.
Exactement. Alors, ce qu'il fait, Poutine est un ancien KGB. Mmh. Et il n'a pas, le mot ancien est trop ici, car il n'y a pas ancien KGB. C'est KGB toujours.
Oui, dans l'esprit, il est toujours KGB.
Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient au temps des communistes? Ils étaient très forts dans la propagande, la manipulation des idées et tout ça. Et ils demeurent comme ça. Alors, sauf que, aujourd'hui, ils ont un outil qu'ils n'avaient pas jadis. C'est évidemment les réseaux sociaux, qui permettent d'ignorer les médias traditionnels et aller directement aux gens. Ils ont commencé leur opération avec le Brexit, car Dugin a dit qu'il faut séparer le Royaume-Uni de l'Europe.
L'Europe du monde anglo-saxon.
Exactement.
Donc d'abord le Royaume-Uni, puis les États-Unis.
Oui, car Dugin, il parlait sur le monde multipolaire qu'on entend toujours aujourd'hui parler par Poutine et par Xi Jinping en Chine. C'est une idée de Dugin, justement. Et alors, ils ont commencé par le Brexit, c'était le premier pas. Et ils ont utilisé l'intelligence artificielle comment? Dans un autre roman, Immortel, je parle sur l'intelligence artificielle, j'explique par exemple dans la médecine, et ça c'est un exemple pour comprendre où je veux aller dans la politique. Dans la médecine par exemple, tout le monde le sait, on a mal à la tête, alors on prend une aspirine. Mais l'aspirine, elle est efficace chez quelques personnes, mais pas d'autres. Car l'ADN de chacun de nous est différent, notre profil génétique est différent, et ce médicament, il est efficace d'une façon différente selon la personne, son ADN. Mais on pense qu'on est en train de travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple, une personne a un cancer. Alors, au lieu de lui donner une chémothérapie qui est efficace ou non, pour tout le monde, c'est la même chémothérapie, ce qu'on va faire, c'est on va étudier l'ADN du cancer, on va étudier l'ADN du malade, et puis l'ordinateur, il va développer un médicament ciblé pour cette personne. Alors, l'efficacité sera de 5%. Et ici, c'est la même chose qu'ils ont fait, mais pour la politique. Alors, qu'est-ce qui fait bouger Didier? Imaginons-nous que Didier, il aime beaucoup les animaux. Alors, Didier, il est au Royaume-Uni, il va recevoir un message de John de Birmingham, qui n'est pas John, c'est en effet Boris de Saint-Pétersbourg, déguisé de John. Il va dire, Didier, regarde ça, ces lois de Bruxelles qui protègent les abattoirs, qui protègent les laboratoires de faire des expériences avec
les chasseurs,
animaux, c'est pas acceptable, ces lois de Bruxelles, il n'y a qu'une solution, il faut voter Brexit. Mais imaginons-nous que Didier, en effet, il aime chasser. Alors, John de Birmingham, qui est en effet Boris de Saint-Pétersbourg, va envoyer des messages à dire, ciblés pour lui, à dire, Didier, regarde ces lois de Bruxelles qui protègent les animaux, qui nous empêchent de chasser, de faire ce sport qu'on aime autant. Il n'y a qu'une solution. Il faut voter Brexit. Alors, ils identifient, en étudiant les profils du Facebook de chaque personne, ils identifient qu'est-ce que fait bouger chaque personne. Et puis, ils disent, là, le problème, ce problème existe, la faute, c'est Bruxelles, alors il faut voter Brexit. Mmh. Ou, ce problème existe, la faute, c'est les démocrates, il faut voter Trump. Ou n'importe quoi, car ce protocole...
Oui, tout est bon pour servir la même cause, mais selon le profil de la personne.
Même des choses contradictoires. C'est ainsi qu'on a vu, par exemple, des Noirs à voter pour Trump. Parce qu'ils sont très machos, les Noirs aux États-Unis. Alors, ils ont manipulé ça. Regarde ces lois qui protègent les femmes, on ne peut pas faire n'importe quoi, là. Il n'y a qu'une solution, il faut voter Trump. Alors, même des gens qui sont contre leurs intérêts, et ils utilisent ce protocole, pas seulement pour Brexit, pas seulement pour Trump, mais en toute l'Europe, en France, au Portugal, en Espagne, les mouvements séparatistes en Espagne, par exemple, les Catalans, ça a été encouragé par la Russie, en déguisé.
En Écosse également.
Oui, en Écosse, la même chose. Alors, où il y a des problèmes, ils utilisent des problèmes réels. Ce ne sont pas inventés, ces problèmes. Et puis, ils vont encourager la polarisation, justement comme Alexandre Dugin expliquait dans son livre de 1997.
Et nous allons continuer cette discussion à propos de votre dernier ouvrage. Il s'appelle donc Protocole Chaos, c'était aux éditions Hervé Chopin. Il parle de tout cela dont nous parlons ici. Mais pour le moment, nous allons marquer une courte pause. Radio Alpha. José Rodriguez dos Santos, est-ce que les Russes sont une bande de paranoïaques complexés?
Oui, dans un certain sens. Premièrement, j'étais à Moscou en 2014 pour la fête du livre de Moscou. Et quand je parlais avec eux, je comprenais très clairement qu'ils avaient cette nostalgie de l'Empire, mais pas dans une nostalgie de dire « Ah oui, nous avions un grand empire », mais non, il nous faut élargir l'Empire à tout l'instant. Ils ont aussi cette tradition du régime communiste, c'était une dictature totalitaire, et ils y sont encore. Je trouve beaucoup de points communs entre eux, la Chine et un petit peu aussi la Turquie. Ils ont aussi ces complexes. Ils disent que bon, nous n'avons cet empire à des problèmes aujourd'hui à cause des Occidentaux. C'est pourquoi il faut détruire l'Occident. C'est notre ennemi, tout ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui on dit souvent que nous sommes en guerre. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas qu'il y a une guerre contre nous, parce qu'on dira c'est l'Ukraine, mais non, ils sont en guerre contre nous, ils ont l'envie de détruire et de dominer l'Occident, et ça c'est le résultat d'un complexe d'infériorité.
Et cette expression, je le précise ici, bande de paranoïa complexée, je la tire de votre livre, hein, vous l'écrivez à la page 172. Vous êtes revenu il y a quelques instants sur la théorie de l'intellectuel d'extrême droite, Alexandre Dugin, qui est connu pour ses positions, vous le disiez, ultranationaliste, auteur de nombreux essais sur l'impérialisme russe, sur cette idée donc d'un empire eurasien allant de Lisbonne à Vladivostok. Cette idée se met en place notamment par les réseaux sociaux. Il s'agit d'aller contaminer, de répandre des fake news pour aller toucher les plus fragiles et faire tomber donc les États-Unis, le Royaume-Uni, le monde anglo-saxon pour faire tomber l'Europe et faciliter les affaires russes. Vous donnez dans votre ouvrage une définition de la fake news, page 205, vous écrivez « Une bonne désinformation a toujours un fondement de vérité qui sert à donner de la crédibilité aux mensonges ». Donc une fake news est toujours en fait un peu vraie.
Oui, il y a des choses vraies, évidemment. Est-ce qu'il y a les problèmes entre les musulmans et les non-musulmans, mais bien sûr qu'il y en a, hein, et le nier, c'est nier l'évidence. Mais puis, ils peuvent travailler sur ces problèmes pour amener des autres problèmes. Je dois dire que j'aime pas beaucoup dire c'est un projet de droite ou de gauche, parce qu'il y a des mouvements socialistes, voire communistes, quand je dis socialiste, dans le sens communiste, qui sont aussi dans ces enjeux, qui disent oh, il ne faut pas aider l'Ukraine et tout ça, c'est l'enjeu, c'est la narrative de Moscou en effet. Et ce qu'il fait, les Russes, ils soutiennent tous les mouvements extrémistes n'importe quelle persuasion dès que ça arrive à ses objectifs, par exemple pour à l'Occident, surtout aux États-Unis, mais aussi un petit peu en Europe, ils parlent pour certains groupes, ils disent « Nous sommes les derniers protecteurs de la civilisation chrétienne. » Mais par exemple, pour les musulmans, ils disent « Nous sommes les seuls blancs et chrétiens qui protègent l'islam, car vous voyez qu'ils attaquent l'islam. » Alors, c'est toujours ces messages contradictoires ciblés pour un public spécifique. Alors, pour les musulmans, ils ont un certain message. Pour d'autres, par exemple, dans le Brexit, ils ont fait une chose, c'est ils ont envoyé des messages aux Pakistanais et aux gens du Bangladesh à dire, vous voyez, quand ils parlent des frontières ouvertes, ce qu'ils veulent dire, c'est frontières ouvertes pour les Français blancs, pour les Allemands blancs, mais pas pour les Pakistanais, car quand les Pakistanais, quand ils arrivent à la frontière, à l'aéroport, on voit bien qu'ils nous discriminent. Alors,
oui, c'est toujours une référence ici à l'espace Schengen.
Exactement. Alors, c'est toujours ciblé selon les conveniences, disons ainsi. Alors, ils donnent des messages à n'importe qui, même pour les musulmans. vous comprenez? Et c'est toujours le jeu d'encourager la conflictualité et la confrontation. Par exemple, ils ont fait une chose aux États-Unis dans les élections de Trump, c'est de dire à des mouvements de suprématie blanche, à dire il faut faire une manifestation à la place centrale jeudi à midi. Et puis ils ont envoyé des messages à des noirs du mouvement Black Lives Matter, à dire il faut faire une manifestation à midi jeudi à la place centrale. Alors les deux mouvements soudain avaient une manifestation au même lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la bagarre, hein, des confrontations, tout ça. C'est ce qu'ils voulaient faire, encourager la conflictualité. C'est toujours leur enjeu.
Oui, tout est bon pour déstabiliser l'ordre établi.
Pour créer le chaos.
Pour créer le chaos. Protocole Chaos, c'est le nom, je le rappelle ici, de votre roman publié aux éditions Hervé Chopin. On le comprend, les nouvelles guerres seront numériques. D'ailleurs, vous le faites dire à un militaire russe dans votre livre, je vous cite, « Là où pendant la grande guerre patriotique, nous, les Russes, avons affronté l'ennemi avec des balles, nous l'affrontons aujourd'hui avec des likes. Là où pendant la grande guerre patriotique, nous avons attaqué l'ennemi avec des canons, nous l'attaquons aujourd'hui avec des tweets. Là où pendant la grande guerre patriotique, nous avons vaincu l'ennemi avec des tanks, nous le vainquons aujourd'hui avec des mèmes. Les armes sont différentes, mais la victoire est à nous, elle est à nous, Russie, Russie, Russie. » Est-ce que cela signifie que les États, les médias, et en fait même nous, les citoyens aujourd'hui, devons nous considérer comme des soldats sur le front permanent de l'information?
Ou des soldats ou des victimes des attaques, car quand ils attaquent nos idées, quand ils attaquent notre façon de vivre, c'est une attaque contre nous, et c'est ce qu'ils font. Alors, je dirais plutôt des victimes, mais ils utilisent surtout la liberté d'expression. Il y a un ancien chef du KGB qui a dit « Si l'Occident n'avait pas la liberté d'expression, il nous fallait l'inventer pour eux. » Parce qu'ainsi, ils nous manipulent mieux. Ils utilisent ces techniques pour car nous avons la protection de la liberté d'expression, tout ça, ce qu'ils n'ont pas. Alors, ils exigent que nous respectons la liberté d'expression, mais dans leur pays, ils n'acceptent pas ça. Alors, on va tomber du haut dans certains bâtiments, si on dit quelque chose de... Il y a une fille, son père a été arrêté parce que sa fille, à l'école, a fait un dessin contre la guerre.
Mmh, absolument,
vous
oui.
Comprenez? Alors, quand on... Et ces gens-là...
Contre la guerre en Ukraine, oui.
Oui, ils veulent prêcher sur la liberté aux Occidentaux. Alors, c'est là que nous avons vraiment un grand défi. Les réseaux sociaux sont hors contrôle. Et je pense qu'il n'y a une façon de contrôler ça, c'est de responsabiliser. Par exemple, nous sommes ici à Radio Alpha. Si Radio Alpha dit quelque chose qui n'est pas vrai, elle peut être responsabilisée au tribunal. Mmh. Il aura un procès judiciaire, possiblement. Mais les réseaux sociaux disent n'importe quoi, ils ne sont jamais responsabilisés.
Oui, c'est un Far West numérique.
Exactement, alors c'est pas possible. Et s'ils disent des choses qui sont fausses, il faut qu'ils soient responsables, sinon ça continue hein, et ça ne finira jamais.
On parle ici des nouvelles guerres qui seront des guerres numériques, mais la Russie continue aussi à faire la bonne vieille guerre à l'ancienne. En Ukraine, sur le front, c'est la guerre à l'ancienne.
Oui, et c'est la guerre est vraiment à l'ancienne, parce que avec les ordinateurs, surtout après la guerre du Golfe en 91, on a commencé à faire une guerre plus intelligente, avec les missiles qui étaient ciblés pour des cibles très militaires très spécifiques, qui a été très efficace. Et la machine de guerre qui est tout détruit, c'est une façon de guerre industrielle qui est, disons aussi, après l'époque des ordinateurs, était finie, on pensait. Mais finalement, la Russie, c'est pas un pays très développé. Et ils utilisent encore les méthodes de guerre industrielle, voire ils veulent prendre Mariupol et ils vont détruire toute la ville, tuer tout le monde pour arriver à ces buts. C'est une façon vraiment... Bon, on croyait fini de faire la guerre, mais il l'a fait de cette façon. Et s'ils veulent faire la même chose en Europe, après Ukraine, car le commandant disait que l'Ukraine, c'est seulement la première phase de cette guerre... Bon, ça sera très compliqué.
Bah, de la même façon que peut-être cette invasion numérique, cette pollution de nos réseaux sociaux par des fake news, et aussi peut-être la première phase, nous faire tomber pour nous désunir, pour ensuite nous attaquer militairement.
Ah oui, non, c'est leur projet, parce qu'ils il veut récupérer l'ancienne Union soviétique. Il y a des États en Union européenne qui appartenaient à l'Union soviétique, notamment la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Et bon, et évidemment, il y a d'autres pays qui paniquent, notamment la Pologne, qui pensent qu'ils seront aussi ciblés. Alors, c'est vraiment une situation très, très, très sensible et complexe.
Mais alors, cette vision, ce regard d'une Europe molle, colonisée culturellement par les Américains, ce regard russe sur l'Occident, est-il sincère ou est-il construit pour justifier la politique russe? Ils pensent vraiment que l'Europe est molle? Ou alors, ils vendent cette image pour pouvoir attaquer?
Non, je pense qu'ils pensent. Ils pensent que nous ne sommes pas disponibles pour faire la guerre, on essaie toujours des compromis et tout ça, alors nous ne sommes pas disponibles. Et peut-être qu'ils ont raison, attention. Nous ne sommes pas disponibles pour couper peut-être des dépenses dans l'État social pour avoir plus de protection. Mais comme disent toujours les militaires, et pour avoir un État social, il faut aussi le protéger. Il faut avoir une force pour eux, sinon il va tomber. Et ça me semble très évident. Et aussi, cette phrase ancienne des romans qui disait « Si vis pacem parabellum », voire « Si vous voulez... »
La paix,
préparez-vous pour la guerre, pas pour la faire, mais pour désencourager les autres de vous faire la guerre.
Vous êtes écrivain, Zay, mais aussi journaliste, présentateur du JT de 20h depuis plus de 30 ans au Portugal. Pensez-vous que les journalistes sont encore armés aujourd'hui pour lutter contre ce chaos informationnel orchestré, notamment par les Russes?
Non, premièrement, il nous faut comprendre le problème. Et il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas. Il y a un problème avec les réseaux, tout ça, mais on ne comprend pas vraiment la source du problème. Deuxièmement, les gens aujourd'hui, en effet, ils obtiennent des informations par les réseaux sociaux, la majorité des gens. Alors, c'est une forme détournée le procès normal. Alors, les journaux.
Et les médias eux-mêmes, les journaux aujourd'hui, les chaînes de télévision, les radios, oui, informent par les réseaux sociaux aussi.
Exactement. Mais c'est pire que ça. Personne ne lit plus les journaux. On voit encore la télé, on écoute encore la radio, mais les journaux sont vraiment dans une profonde crise dans tout le monde. Alors, c'est vraiment un défi, un plus. Je pense toujours, il y a un très bon exemple qui a été donné par la BBC dans la Seconde Guerre. C'est la BBC a commencé par faire la propagande britannique. Mais puis ils ont compris que la majorité des Britanniques, ils écoutaient la radio allemande pour comprendre ce qui se passait dans la guerre. Alors la BBC a changé sa politique, a dit, bon, il nous faut dire la vérité, parler sur les défaites, et ainsi les gens croiront si on arrive aux victoires. Et alors, ils ont changé leur approche. C'était plus une approche propagandistique, mais plutôt journalistique. Et je pense que quand on écoute la télévision, on voit la télévision, quand on lit les journaux, on lit beaucoup les journalistes qui prêchent une sorte de moralité. Et notre métier, là, c'est pas de prêcher, c'est de dire la vérité.
Oui, vous regrettez le côté éditorialiste.
Exactement. Alors, on écrit d'une façon à condamner ça. Non, il nous faut dire la vérité. Et même s'il n'est pas agréable pour notre idéologie, il nous faut le dire. C'est ainsi que les gens reprendront la confiance. Car si on éditorialise, c'est une façon de faire propagande aussi. Et il faut faire attention à ça.
Oui, mais alors, est-ce que la vérité a encore de la valeur aujourd'hui? Puisque souvent, par exemple, les médias donnent de vraies informations, des informations vérifiées, par exemple, sur des partis d'extrême droite, sur les réseaux sociaux, et se font ensuite lyncher par les partisans en disant « mais c'est n'importe quoi, vous tapez toujours sur les mêmes, oui, vous racontez n'importe quoi », alors que les informations avancées sont vraies.
Oui, en effet.
Donc mais problème, la valeur de vérité est remise en cause aussi.
C'est le problème de la crédibilité. Car si nous sommes seulement disponibles pour présenter les points de vue d'un côté... Alors, évidemment, les gens qui sont de l'autre côté vont se méfier de tout ce qu'on dit. Alors, c'est pourquoi je dis, il nous faut dire toujours la vérité, même si elle nous est désagréable.
Ce sera ma dernière question. Ce livre, José Rodríguez dos Santos, Protocole Chaos, est un roman, certes, mais mené à la façon d'une enquête journalistique, donc sur la propagande russe, on l'aura compris, sur le fonctionnement du FSB, sur les nouvelles techniques de manipulation. Avez-vous eu peur, à un moment, d'être allé trop loin et craignez-vous certaines conséquences?
Non, il avait les conséquences évidemment judiciaires. Alors, quand j'ai écrit ce roman-là, il a été relu par des avocats pour sont des choses que dans des procès judiciaires, je peux me défendre. Un plus, évidemment, il y a un autre côté, c'est je suis sûr que je suis surveillé. Ça, c'est clair. J'ai écrit un livre sur le Parti communiste.
La femme au dragon rouge, déjà,
exactement,
sur la Chine.
Sur le Parti communiste chinois. Mmh. Évidemment, je sais que on surveille mon ordinateur. Il y a des infos partout. Alors, je sais que je peux pas aller en Chine après écrire La femme au dragon rouge. Et je sais que je peux pas aller en Russie après écrire Le protocole chaos. Ça, c'est très clair. Et je le savais. Mais quand même, je pense toujours, mon métier, c'est de dire la vérité, même déguisée en fiction. Car Protocole Chaos, il faut toujours le rappeler, c'est un roman. Mais c'est un roman que, par le biais de la fiction, nous dit des choses vraies sur notre monde.
Vous iriez déjeuner dans un restaurant russe, encore aujourd'hui?
Ah oui, sans souci. Je pense, bon, ils me surveillent, mais j'espère qu'ils ne feront rien de plus que ça. On ne sait jamais.
J'imagine que vous écrivez déjà le prochain livre. De quoi parlera-t-il?
Bon, c'est ça. On en parlera. Quand il sera publié, sinon c'est trop tôt.
Et ce livre donc s'appelle Protocole Chaos. Quels sont les liens entre Trump et la Russie? Voilà l'une des questions que pose ce nouveau roman Protocole Chaos, édition Hervé Chopin. Une fiction convaincante qui est sortie le 7 mai dernier, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Une fiction fondée donc sur des faits, écrite comme une enquête et pensée comme un outil de prise de conscience. Merci beaucoup, Zay.
Merci beaucoup.